Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, mardi 2 juillet, deuxième semaine de notre rendez-vous estival. Du lundi au vendredi, entre midi et 13 heures, nous passons une belle heure ensemble autour de sujets variés, des entrevues qui témoignent de toute cette effervescence qui se manifeste dans cette belle saison, des propositions artistiques et culturelles qui foisonnent, mais aussi des sujets qui nous permettent de réfléchir sur des enjeux importants et pressants. C'est tout ça, Aime l'été et plus encore. Après le congé de la fête du Canada, on se retrouve ce midi avec des invités fort intéressants. Il sera question d'une exposition de photos à ne pas manquer et qui commence demain à l'Écomusée du Fiers-Monde. On reçoit le photographe et anthropologue Pierre Fauteux. Il sera question beaucoup d'itinérance aujourd'hui. On sait que le problème du logement est au cœur de l'actualité. On va en parler avec France Labelle, cofondatrice et directrice générale du Refuge des jeunes et qui anime un balado sur l'itinérance ici même à l'antenne de Canal M. Et nous allons discuter aussi avec Robert Baudry, responsable de l'itinérance au comité exécutif de la ville de Montréal. Mais on va commencer l'heure avec Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU et Montréal Complètement Cirque, qui prend son envol à compter du 4 juillet. Alors joignez-vous à nous à Aime l'été! Et tout d'abord, un mot pour vous parler de notre belle équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde et à la réalisation, dis-je bien. Notre chef recherchiste, Nathalie Barrette, qui est à mes côtés en studio tout au long de l'émission. Bonjour Nathalie.
Allô, comment vas-tu?
Ben oui, ça va bien. Notre deuxième semaine ensemble, c'est merveilleux.
Deuxième semaine.
On a eu bien du plaisir déjà la première, alors ça devrait être comme ça cette semaine aussi, j'en suis certaine. Et puis j'en profite aussi pour remercier notre autre collaboratrice à la recherche, Clarence Robitaille-Meloche. Alors c'est un plaisir d'être bien entourée. On commence avec notre premier sujet, complètement cirque. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai, il n'y avait pas de transition là. Alors, bonjour, comment allez-vous? Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU et Montréal Complètement Cirque. Alors, ça commence cette semaine, jeudi. Alors, ça va commencer sur des chapeaux de roue, comme on dit.
Oui. Bien, ça commence en fait demain avec l'ouverture officielle à la TOHU.
Oui, alors ça, c'est en fin de journée, j'imagine.
Oui, c'est en soirée avec le spectacle Smash de Gandini Juggling.
Ouais, alors...
Et après, on a aussi Sophie Surprise plus tard à 9h30.
D'accord. Alors, depuis 2010, là, c'est le premier festival du genre en Amérique du Nord, premier festival international en art du cirque. Et évidemment, vous avez fait du chemin depuis, mais en fait, on sait qu'on est devenu une référence et que les gens, d'ailleurs, aussi aiment venir chez nous pour partager, évidemment, toute cette expertise. Et puis, bon, il y a le marché en marge de ce festival complètement en cirque, il y a quand même un marché aussi, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on l'appelle, du moins pour évidemment réunir les professionnels du cirque.
Oui, ben en fait, Montréal est l'une des capitales des arts du cirque, oui. Surtout pour sa création. Les spectacles québécois qui sont créés ici rayonnent dans le monde pendant des années partout. C'est vraiment un très, très beau succès. Et évidemment que c'est curieux, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal, pourquoi on a des spectacles comme ça. Et c'est là que la TOHU a été créée il y a 20 ans et le festival il y a 15 ans pour accueillir les spectacles étrangers en plus de soutenir le cirque québécois. Et donc, les 11 jours de festival qu'on commence, on a des spectacles d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie, mais aussi des créations québécoises, des compagnies d'ici. Et tout ça permet, ça devient intéressant, surtout la semaine prochaine, de faire venir des acheteurs de spectacles de cirque ou des gens curieux d'ajouter du cirque dans leur programmation, des salles comme on en a ici partout au Québec là, qui achètent du théâtre, de la danse, de la musique, de l'humour. Et puis, donc, partout dans le monde, il y a beaucoup de curiosité sur les arts du cirque contemporain. Et le fait de venir pendant Montréal complètement cirque, ça permet de voir une dizaine de spectacles en live, là, de peu partout dans le monde, mais aussi des créations québécoises, mais aussi beaucoup d'échanges avec des artistes, des compagnies, des spectacles en création, des spectacles de tournées, mais qu'on présente pas. Alors, il y a plus de 60 pitchs de présentations, de spectacles, de projets qui sont faits la semaine prochaine à plus d'environ 300 professionnels qui sont là, une centaine d'acheteurs. Donc, c'est ça qui fait que Montréal est une capitale des arts du cirque. C'est à la fois au niveau de la création, au niveau du talent, au niveau du coaching, au niveau de la formation, mais aussi quand on veut apprendre c'est quoi le cirque contemporain, quand on veut comprendre comment on rejoint le public, les différentes formes, bien, c'est à Montréal qu'on peut faire ça pendant le festival.
C'est vraiment devenu la planète cirque, finalement, Montréal, oui. Alors, on fait preuve d'une créativité étonnante. Évidemment, les arts du cirque ont connu, c'est ça, une forte croissance. Évidemment, c'est sûr que là, on a eu le Cirque du Soleil qui a innové, bien sûr, et évidemment, ça a fait, comme on dit, boule de neige. C'est sûr que ça a stimulé énormément l'innovation, la découverte. Alors, vraiment, formidable potentiel du côté des arts du cirque, et ça continue sans cesse. Mais comment on arrive à avoir autant de talent? C'est fabuleux quand même. Et je pense, là, d'ailleurs, je pense à cette jeune fille, parce qu'évidemment, là, vous avez intégré la géante là, dans votre programmation depuis quelques années. Alors ça fait courir les foules. Mais cette année, ce sera une jeune fille de 10 ans qui est la vedette.
Oui, qui fait du crump. Et qui chante. Oui, tout à fait. C'est elle qui va être une géante. Et
ça
sera le spectacle à la place d'une Marie. Mais c'est ça, le Québec. C'est notre créativité. On la voit chez les auteurs, le cinéma, le théâtre, Robert Lepage et plein d'autres. Et en musique contemporaine, musique plutôt pop. On est partout dans le monde. On a des Denis Villeneuve au cinéma. Le Québec regorge de talents. Parce qu'on a aussi à Montréal de très grandes écoles. Les écoles nationales de théâtre, de ballet, de cirque sont à Montréal.
Oui.
Plus les autres écoles, l'INIS et plein d'autres. Il y a un talent fou.
C'est sûr que l'école du cirque a aidé grandement à développer de nouveaux talents, c'est sûr.
Énormément, parce que le talent attire le talent aussi.
Oui.
Montréal est capable d'attirer les grands coachs, des profs de partout dans le monde, ils viennent d'ici. Mais on attire aussi les gens qui ont beaucoup de talent ou de prédisposition physique. Et c'est à Montréal qu'on veut venir apprendre à faire du cirque. Alors, une fois qu'ils sont ici, qu'ils finissent les études, ils restent ici. Alors, le cirque est très multiculturel. Les arts du cirque rejoignent tout le monde parce que c'est un art qui parle à tout le monde, quel que soit l'âge, nos origines, les religions, n'importe quoi. Le cirque est très fort parce que c'est la performance d'un humain qui va plus loin des limites que nous, on pense qu'on a, mais aussi qui est capable de nous raconter une histoire en 7-8 minutes avec son corps et avec un objet. Puis ça fascine depuis des milliers d'années l'humain. C'est entre nous, c'est des acrobaties, c'est fascinant. On trouve il y a 2-3 000 ans, on sait que les gens faisaient des acrobaties. On a des dessins, on a des sculptures,
Alors, c'est intéressant.
C'est profondément humain, puis c'est comme une attraction de talent ici.
Ouais.
Et qui donne cette créativité-là.
C'est
comme ça. On est chanceux au Québec.
Mais absolument. Puis c'est bien que vous souligniez l'aspect inclusif maintenant. Évidemment, on parle de performance physique, d'athlète en quelque sorte, mais aussi, on a intégré, c'est ça, c'est que je pense qu'au départ, oui, le Cirque du Soleil a intégré de nouvelles dimensions à tout ça. La danse, le théâtre. Alors, c'est riche en émotions aussi. Alors, et puis, on a toute une expertise aussi. Bien sûr, au Québec, en termes d'éclairage, de son, il y a tous ces gens-là aussi qu'on oublie trop souvent qui font partie intégrante des spectacles et notamment des spectacles de cirque.
Tout à fait. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de concepteurs de décors, de costumes. On a besoin des costumes très particuliers en art du cirque. Donc, il y a la technologie, il y a de la recherche derrière ça. Même chose pour l'éclairage et pour la scénographie. C'est pas faire un décor de théâtre, ce n'est pas la même chose que de faire un décor de cirque. Parce qu'il y a des humains qui dépendent, leur vie dépend de ce décor-là, ce qu'il n'y a pas en théâtre.
Alors, il faut penser à la sécurité, bien sûr, c'est ça.
Oui, c'est un des endroits. Moi, je dis toujours qu'une scène de cirque, c'est l'endroit les plus sourds au monde.
C'est pas bête.
Vraiment aucune. C'est sûr que tout est fait pour le public, là, pour avoir peur et tout ça, mais il n'y a pas de crainte. Jamais on met en danger un humain. Alors, c'est toute la recherche qui est derrière. Il y a beaucoup d'humains derrière un artiste qui performe et des techniciens, des grilleurs, mais tout a été calculé, mesuré, testé avant. Donc, il y a une expertise qui est faite aussi. C'est pour ça que ça a donné Solotech, ça a donné Moment Factory, ça a donné plein d'autres compagnies qui maintenant, Trésor, CénoPlus, tout ce qui conçoit, qui construisent les plus grands théâtres dans le monde. C'est maintenant ici.
Ouais.
On avait la chance d'avoir Cirque du Soleil, Céline Dion, Denis Marlowe, Robert Lepage qui ont tiré tout le monde vers le haut. et emmener tout un secteur de la culture à un niveau international très, très réputé.
Ça ne fait pas exception pour le cirque, bien sûr. Et la Tohu a contribué, évidemment, et la Tohu qui est un modèle aussi par rapport au développement durable. Enfin, c'est quand même fascinant. C'est une vitrine incroyable aussi pour le monde du cirque. Alors, vraiment, et puis là, vous allez évidemment être partout à la fois, il faut le dire. Là, vous avez quand même énormément de lieux différents et vous accueillez des troupes absolument fantastiques. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des spectacles de rue. Bien sûr, on sait que le quartier latin est quand même le lieu favori là, pour présenter du cirque à l'extérieur. Alors ça, c'est évidemment, on parle d'Émilie Gamelin, là. On parle de la rue Saint-Denis qui sera fermée, évidemment, pour accueillir tout ce beau monde à partir du 4 juillet jusqu'au 14, d'ailleurs. Et puis, bon, parlez-nous des troupes, là, les nouveautés, ou en fait, celles qui reviennent, mais qui nous entraînent dans un univers de curiosité, d'excentricité, enfin, bref, des gens qui viennent d'Australie aussi, entre autres,
oui. Oui. Bien, ça, il va pour, par exemple, le grand public là, qui veut s'amuser entre amis, même, je pourrais dire, entre adultes. On a trois spectacles, vraiment des artistes de cirque très audacieux, très forts. On a Dirty Laundry d'Australie, qui est un spectacle de drag queen et d'artistes de cirque. C'est au Saint-Denis. Ça, c'est du plaisir. C'est avec Barbada qui anime. C'est du plaisir vraiment du début à la fin. Là. C'est vraiment très, très drôle, l'humour australien. On a Barbu du Cirque Alphonse avant, au Saint-Denis aussi, qui est complètement dérisoire. Il n'y a pas d'orgueil dans ce spectacle. On rit de soi à fond. C'est vraiment très drôle. C'est du terroir québécois, la musique traditionnelle électro-pop, donc électro-trad, et qui est vraiment festif aussi. Puis on a à la Tohu une compagnie d'Angleterre qui sont des jeunes qui ont fait l'École nationale de cirque, qui sont plus jeunes en fait. Ils ont fait l'École nationale, ils ont joué un peu partout, sur le soleil, ça doit, plein de compagnies dans le monde. Ils ont leur propre spectacle qui est Sophie Surprise, qui est une party de surprise à une Sophie qui sera dans le public, on ne sait pas c'est qui, mais il y a une Sophie et c'est sa fête. Et c'est un party sous chapiteau, dehors. C'est très festif, ce sont des artistes d'un talent incroyable. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est très, très près d'eux. C'est très intime, c'est 300 personnes seulement, c'est un petit party. avec la scène au milieu et puis et des artistes vraiment qui poussent leurs limites, mais là on les voit de très très près et il n'y a pas de quatrième mur, c'est vraiment, ils viennent nous parler, on est avec eux, c'est vraiment très très festif comme spectacle. Sinon il y a des spectacles pour la famille avec les enfants, il y a Broutipo qui sont des clowns québécois, c'est extrêmement touchant, les enfants adorent ça, des compagnies Futuko, c'est à la Tohu. On a le bibliothécaire aussi.
Tout à fait, pour les enfants, oui. Il y a Chaud Devant aussi. Il y a Bon Voyage, justement, Nathalie, qui est avec moi, voulait justement en glisser un petit mot, vraiment des spectacles étonnants. Aussi au Quai de l'Horloge, là, le 6 juillet, ce sera aussi fort intéressant pour les jeunes. Hein?
Oui, ça, c'est ouvert. Parce que c'est un camion de pompiers et c'est qui arrive un peu avec une alarme et finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment des pompiers. Et c'est un spectacle acrobatique avec l'échelle, les aériens, tout ça autour. C'est sûr que les enfants vont adorer ça. On a donc des spectacles. On a Colo Colo, qui est une compagnie du Maroc, qui est marocaine, qui fait de l'acrobatie, qui va se promener dans les parcs à Montréal. Eux, c'est festif aussi. Ils chantent, ils dansent. C'est avec le public. On peut chanter et danser avec eux. Et ils restent après pour échanger avec le public. Ils parlent français et arabe. Et ça aussi, on est dans les acrobaties typiquement marocaines qui sont apprises dans les écoles là-bas. Donc ça, c'est un beau spectacle aussi. Ça, c'est gratuit dans les parcs. Suivre. Là, il y en a une dizaine de représentations un peu partout à Montréal.
C'est ça, d'ailleurs, c'est important de mentionner pour les familles qui ont peut-être un peu moins de sous qu'il y a des spectacles gratuits partout, parce qu'on a parlé, vous avez parlé des spectacles en salle, mais des spectacles gratuits pour les familles, il y en a beaucoup aussi.
Oui, puis il y en a à la Tohu, les week-ends, c'est à la Tohu tout l'après-midi. On a Zach de Radio-Canada qui est là. On a de l'animation, c'est un spectacle de l'École nationale. Il y a Colo Colo, donc, qui est dans les parcs. Il y a Cirque Easy à la place Pasteur au métro Berry. L'après-midi, c'est pour les enfants. On a des ateliers de cirque, on peut s'amuser. La famille est très importante un peu partout. Il y a aussi un spectacle au Théâtre de la Verdure. C'est un petit peu tard, par contre, il est à 21h, mais la compagnie, le projet Lorca, qui est un mix de danse et de cirque, ça, c'est gratuit aussi au Théâtre de la Verdure. Donc, oui, il y a beaucoup de possibilités de voir des spectacles et de voir des artistes de cirque un peu partout, à la TEU, au centre-ville et dans les quartiers.
C'est ça. Et puis, évidemment, bon, vous avez intégré Bon Voyage aussi à votre programmation, hein, qui est présentée aussi. Alors, il y a La Géante également. Là, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est vraiment le coup de cœur des Montréalais et des touristes aussi. Alors, des représentations à tous les jours, hein.
Oui, c'est à 6h, à 18h et 21h30 à la Place de Marie. C'est gratuit, ça dure 30 minutes. C'est parfait, on l'a vu l'année passée, d'arriver un peu plus tôt avec un sandwich, un pique-nique, vous installer sur l'esplanade et vous manger avec les enfants, tout ça. Puis après, à 18h ou à 21h30, le spectacle commence.
Ouais.
C'est assez magique.
C'est assez beau, magique. Avec une jeune...
Et le Mont-Royal derrière. Et,
avec cette jeune fille, Adeline Cruz, là, 10 ans, là, vraiment. Alors, c'est quelque chose. Ben, écoutez, vraiment, puis avec cette vue époustouflante aussi, hein, de cet anneau, avec vue à l'arrière-plan là, de la montagne, vraiment, c'est fascinant. Quel lieu magique.
Oui, c'est très, très beau.
Oui, tout à fait.
C'est un beau moment.
Alors, évidemment...
Il y a des spectacles aussi à la TEU, de cirque d'Australie, d'Angleterre. On a Gandini Juggling, on a... Circa qui revient, la fameuse compagnie qui est une des plus qui tourne le plus dans le monde là, d'Australie, acrobatique dans 2 semaines. Vraiment, il y a des spectacles de tous les goûts, là, de tous les genres. Je dis toujours, on fait la programmation comme ça, vous pouvez voir les 10 spectacles, vous ne pourrez pas dire que ça, vous l'avez déjà vu dans un des autres spectacles.
C'est exactement,
c'est vraiment très, très diversifié.
C'est fabuleux. Alors, un festival rassembleur, Montréal complètement en cirque, le fruit d'un rêve collectif qui mobilise vraiment les forces vives du cirque. Alors, c'est vraiment un merveilleux festival à chaque année. Merci d'être venu nous en parler. Alors, ça a été un plaisir, Stéphane Lavoie.
Merci beaucoup. Ouais. Merci de l'invitation.
Parfait. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Alors, Nathalie, tu avais quelque chose à ajouter,
ben
toi?
Ben oui, tu as parlé du spectacle Bon Voyage. En fait, c'est un nouveau spectacle immersif qui a lieu du 3 juillet au 12 août. Bon Voyage, c'est un spectacle familial, déambulatoire et immersif de 60 minutes où sont jumelés art vivant, l'acrobatie, les projections mapping. Tu sais, le mapping, ça consiste à projeter des images vidéo sur scène pour créer des décors super dynamiques.
Oui, oui.
Puis donc, Bon Voyage propose un voyage dans un monde imaginaire, mais qui nous rappelle notre passé plus que réel de l'histoire ferroviaire du Québec.
OK.
Alors, petit rappel, autour des années 50, Montréal voit enfin apparaître son premier chemin de fer, puis ça a vraiment bouleversé positivement la vie des Québécois, surtout des Montréalais. L'arrivée de ce chemin de fer a stimulé considérablement le développement économique, ça a accéléré l'industrialisation. Et là, plus tard, le Canadien Pacifique a fait construire la gare d'Alousie et c'est là qu'a lieu le spectacle.
Oui, parce que c'est donc, qu'ils sont installés.
Exactement.
Oui,
exactement. La gare d'Alousie.
De la main.
Oui, et ce bâtiment-là est situé dans le Vieux-Montréal. Puis c'est là qu'a été, en fait, la première traversée en train d'est en ouest.
Ah, quand même.
Et le spectacle rappelle cet événement-là.
D'accord.
Alors, allez voir à la gare d'Alousie dans le Vieux-Montréal.
Bon, ben alors, c'est magnifique. En fait, j'ai dit, je me suis trompée, c'est pas les 7 doigts de la main, c'est le Cirque Éloise.
Oui,
alors, c'est
Cirque
sûr.
Éloise.
Oui, oui. C'est le quartier général du Cirque Éloise.
Exactement, du 3
d'Alousie.
Juillet au 12 août. Oui.
Bon, intéressant. Oui. Bon, ben écoute, puis le site Internet, facile à trouver, tout est là. Alors, bon. Alors, on reçoit notre autre invité dans un instant. On va peut-être s'adresser tantôt à Pierre Fauteux, qui est un excellent photographe absolument extraordinaire, à la fois archéologue, anthropologue. Alors, il a certainement bien des choses à raconter, là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une longue expertise dans le domaine de la photo. Et puis, c'est ça, on va parler normalement avec lui. Et puis, on va parler beaucoup d'itinérance aujourd'hui. Alors, c'est notre grand sujet d'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on va même parler d'itinérance un petit peu avant. On cherche à joindre M. Fauteux. Alors, évidemment, il est peut-être derrière sa caméra. On ne le sait pas. Enfin, bon, à suivre. Et on accueille à l'instant Pierre Fauteux. Bonjour, Pierre Fauteux.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, photographe. On vous a présenté justement tout juste au moment où on tentait de vous joindre. Hein. Parfois, ça arrive. On avait inversé des numéros de téléphone, mais enfin, c'est pas grave. Mais chose certaine, on va parler de votre magnifique exposition qui s'en vient à compter de demain à l'Écomusée du Fiers-Mondes. Et d'ailleurs, c'est tout près de nos studios. Alors, j'ai bien hâte d'aller assister à aller voir cette exposition. Habilis. Bon, d'abord, parlons, présentons. On va se présenter, là. On va parler de vous, ce que vous faites. Vous avez terminé une formation en anthropologie, en archéologie, quand même, c'est assez costaud. Et puis, bon, vous êtes, en fait, pendant longtemps, un des rares spécialistes québécois en photographie de documentation archéologique et du patrimoine architectural. Alors, c'est pas rien, quand même. Comment avez-vous développé cette expertise-là?
Bien, en sortant de l'université, justement. Après avoir fait ma formation en anthropologie, je cherchais du boulot, puis j'ai bien vu que c'était pas fait pour moi, là, une carrière d'anthropologue, mais je faisais de la photographie depuis toujours, depuis que j'avais 13-14 ans, donc ça a toujours été une passion, donc j'ai combiné mes deux intérêts comme ça, et je me suis trouvé à faire des photos pour les compagnies d'archéologie qui faisaient des fouilles à Montréal. C'est peu connu, mais il y a beaucoup de sites archéologiques, là, toujours à Montréal, beaucoup de fouilles. Et le ministère de la Culture et la Ville de Montréal exigeaient de ces compagnies-là qu'elles aient des photos professionnelles des fouilles, parce que c'était des fouilles qui, une fois qu'on dégage un site, mais tout est perdu, là, tout ça va dans des boîtes et puis dans des sacs. C'est ça. Donc, il fallait photographier in situ les surfaces. Là. Et donc, c'était une expertise que j'ai développée. Et puis, ça m'a permis de garder contact avec ce milieu-là que j'apprécie toujours.
Mais oui, de toute façon, remarquez que en tant que photographe, ayant cette formation-là, ça vous a grandement aidé. Forcément, et vous aviez déjà cette sensibilité aux objets qui ont une histoire. Alors, ça prend aussi une sensibilité.
Oui, mais je dirais que au final, c'est plus l'anthropologie qui a teinté mon travail que l'archéologie.
OK.
L'anthropologie, qui est vraiment la science de l'homme, les comportements sociaux, l'organisation économique d'une culture. Et donc ça, ça a teinté mon travail autant comme photographe que comme muséographe aussi. J'avais une compagnie de muséographie où on a conçu plusieurs expositions pour plusieurs musées là, à Montréal et en région. Et à chaque fois, mais on mettait toujours l'humain au centre de notre travail. Mmh. La compagnie s'appelait Humanium, c'est pas pour rien. Et en photo, mais cette sensibilité-là demeure. Et je me plais à croire que ça paraît dans les photos que j'ai faites là, des artisans et des artisanes du projet Habilis.
Absolument. Ben, j'imagine, parce que vous avez, bon, vous n'en êtes pas à votre première exposition, vous avez travaillé pour les jardins de Métis, notamment, oui, à Grand Métis. Alors, vous avez, d'ailleurs, il y avait des archives photographiques hein, de ces jardins-là à une certaine époque, et vous avez quand même plongé dans ces archives-là, et vous-même, vous avez documenté ce qu'était devenu, finalement, le jardin de Métis aujourd'hui.
Oui, ben ça c'est mon petit côté pour mon chercheur ou curieux. C'est sûr que c'était un projet qui était inspirant parce que faut savoir que Robert Rufford, qui était le mari de Elsie Rufford, qui a fondé les jardins, fait les jardins à l'époque, c'était un photographe, c'était un des premiers photographes amateurs au Canada. Donc, il y a une immense collection de photographies qui est conservée maintenant aux Archives nationales. Mais donc, il a fait des photos d'un peu partout, mais aussi beaucoup des jardins de Métis. Donc, j'ai fait un projet où je lui rendais hommage, sans refaire les mêmes photos, là, mais je faisais des photos dans les mêmes jardins, sur les mêmes sentiers. Et je lui ai fait un projet en photographie argentique, donc avec la pellicule photo, comme lui l'avait fait à l'époque.
C'est ça, vous avez repris un peu cette même technique. Enfin, évidemment, ce serait un peu long pour ne pas assez de temps pour tout détailler. On pourrait parler pendant une demi-heure de temps. Franchement, vous avez tellement de choses vous avez fait tellement de choses aussi. Et puis, bon, vous avez quand même travaillé sur une autre exposition en 2022, Jardin déplié. Alors, encore là, le paysage et l'architecture là, qui vous préoccupe aussi en même temps.
Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'était intéressant comme projet. C'était de réduire finalement la volumétrie des jardins à sa plus simple expression, où je me concentrais seulement sur les formes, sur les volumes, plutôt que sur les fleurs et les buissons. Alors, un parallèle intéressant.
Une autre approche complètement des fleurs et jardins et tout. Enfin, c'est une autre façon de voir les choses. Et puis, vous êtes également fondateur et directeur artistique d'Humanium. Hein. Ça, c'est une société spécialisée en idéation et valorisation des patrimoines et en réalisation multimédia. Enfin, vous allez nous expliquer peut-être vite, là, en quelques instants, qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, bien, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, on se fait engager par les villes et par les musées pour développer des concepts d'interprétation les sujets possibles. Donc, ça peut être la photographie, comme ça peut être une exposition sur le café, sur n'importe quoi. Et puis, on fait des recherches, on développe un concept, on développe un scénario. Et ensuite de ça, on le met en forme en faisant le design mobilier, des panneaux et tout ça. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Ça a toujours été mon dada, là, de travailler en équipe. C'est là où on produit bien.
C'est sûr. Et demain, c'est-à-dire pour l'exposition qui s'en vient, on s'attend à quoi, là, rapidement?
Un travail d'équipe aussi, je dirais, parce que j'ai photographié une quinzaine d'artisanes et d'artisans à Montréal et à Paris. Et tous ces ateliers-là que j'ai approchés ont tous accepté l'invitation avec grand plaisir. Et c'est là où il y a un beau travail d'équipe qui s'est produit, c'est que j'ai été accueilli, ils m'ont bien présenté le lieu et ils m'ont fait sentir vraiment à l'aise. Et donc, j'avais libre cours de me promener partout dans les lieux. Et des fois, c'était des manufactures quand même assez importantes où ils n'étaient pas tellement habitués à avoir de la visite. Mais tout se passait très bien.
Je vous invite à rester avec nous de quelques minutes. On s'arrête le temps d'une pause, mais je voulais juste conclure avec vous. Parce que là, on est un petit peu pressé par le temps. Alors, je vous reviens dans un instant, puis on conclut notre entrevue.
À tout de suite.
T aime l'été.
Et deuxième moitié d'heure, mais on continue avec Pierre Fauteux pour l'exposition Photo Habilis. Alors, oui, on veut avoir le temps d'en parler, bien sûr. Alors, quelqu'un de très intéressant, archéologue, anthropologue, on le rappelle, photographe, alors qui va nous livrer une belle exposition à compter de demain à l'Écomusée du Fiermonde. Et Nathalie, justement, tu t'intéresses beaucoup à la technique, à l'argentique.
Oui, en fait, M. Fauteux, on avait l'impression que l'argentique allait complètement disparaître à cause du numérique. Mais au contraire, depuis les années 2010, à peu près, la tendance s'installe, puis un retour. Moi-même, ma fille qui a 30 ans, elle a sa caméra argentique, puis les jeunes utilisent de plus en plus l'argentique.
Mais effectivement, en fait, vous le dites bien, c'est les jeunes qui renouent avec cette technique-là. Moi-même, j'ai appris ma fille à développer en chambre noire, et c'est très beau à voir, moi, je m'en réjouis. J'ai jamais quitté mes appareils argentiques, j'ai dit toujours, mais je travaille pas uniquement avec ça. Donc, pour le projet Habilis, justement, il est principalement en numérique. Malheureusement pour vous, peut-être.
Non. C'est bon à savoir.
Oui, les premières photos que j'ai faites pour ce projet-là, il y a à peu près 8 ans, à peu près, étaient en argentique, mais quand j'ai vraiment décidé de plonger dans le projet il y a 2 ans, je l'ai fait en numérique, mais avec un appareil numérique qui ne fait que du noir et blanc. Fait que déjà, ça, c'est intéressant. Et donc, parce que sinon, j'en serais pas venu à bout, parce que l'exposition, il faut savoir qu'il y a une quarantaine de photographies qui sont présentées. Elles sont imprimées en très grand format. Donc, numériser les négatifs et tout ça, c'est vraiment assez ardu. Donc, j'ai penché pour le numérique cette fois-ci, mais mon prochain projet va être en argentique.
Un retour à l'argentique pour la prochaine.
Oui, c'est ça. Donc, il y a moyen d'être bimode sans problème. Alors, et pour en revenir à l'exposition, donc c'est ça. Donc, une quarantaine de photos d'artisans et d'artisans, et on les voit dans leur milieu de travail, en parfaite symbiose. Là, c'est la symbiose entre l'humain et la matière qui est intéressante à voir. Et le contraste aussi, je dirais, entre la fragilité des humains et la force des machines qui les entourent, ça aussi, c'est assez inspirant. Puis, finalement, mais ce qui ressort aussi beaucoup de l'exposition, c'est de voir la fierté de ces gens-là. Ils sont fiers de leur savoir-faire et aussi de la façon dont ils transmettent le métier aux plus jeunes. Donc, c'est un milieu très inspirant, ces ateliers-là.
Magnifique. Bon, en tout cas, alors, bien hâte de voir ça, donc, cette exposition Habilis à l'Écomusée du Fiermonde. Alors, très intéressant. Merci bien d'être venu nous en parler. Ça nous a permis de prolonger un petit peu notre entretien. Et puis, écoutez, alors, il y a le vernissage, donc, à partir de demain, là. Et puis, donc, tout le monde est invité. Et puis, ça se poursuit quand même un bon moment, là. On a quand même une bonne partie de l'été pour... c'est jusqu'au mois d'octobre, 13 octobre.
Oui, tout l'été. Vous avez tout l'été pour y aller.
Ouais, c'est fantastique. Alors, et l'écomusée du Fiermonde, ben, il faut vraiment découvrir aussi. C'est un lieu fort inspirant. Musée d'histoire et musée citoyen. Alors, ça s'inscrit parfaitement aussi dans votre travail. Alors, évidemment, Pierre Fauteux, merci bien. Donc, archéologue, anthropologue, muséographe et photographe, vous avez vraiment un parcours fabuleux. Merci bien.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir. Eh bien, on accueille notre deuxième invité et là, les prochaines minutes seront consacrées à l'itinérance. Alors, on accueille Robert Baudry, conseiller de la ville pour l'arrondissement Ville-Marie, qui est responsable de l'itinérance en même temps, qui fait plein d'autres choses. Enfin, évidemment, vous êtes aussi, vous occupez d'urbanisme. Alors, bonjour Robert Baudry.
Bonjour Madame Lavoie.
Bon, alors écoutez, c'est un gros sujet là, qu'on aborde. C'est sûr qu'on a plein de... Enfin, j'ai plein d'articles devant moi là, pour parler, en fait, qui parlent d'itinérance parce que là, je pense que les journaux, à chaque jour, là, on a des articles parlant de l'itinérance. Alors, on parle de toutes sortes de choses. Par exemple, devant moi, là, j'ai exemple des solutions californiennes à importer au Québec selon Valérie Plante concernant l'itinérance. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sans-abri dans les quartiers résidentiels? Il y en a plein. Les réfugiés de la rue, le refuge qui sera relocalisé là, du côté de Longueuil, là, mais bon, les ressources craquent. Enfin, il y a plein de titres comme ça. Je suis inondée là présentement devant moi d'articles, mais enfin, on va essayer d'aller de l'avant, de voir comment on démêle ça, puis c'est quoi exactement tous les enjeux, puis comment on va réussir à s'en sortir. Alors, ça fait beaucoup, ça fait une longue introduction.
Grand mandat.
Mais enfin, vous connaissez l'itinérance, vous êtes vous-même issu du milieu communautaire, là, et c'est des problèmes que vous connaissez par cœur, problèmes du logement, crise des opioïdes, on en entend parler régulièrement, la situation qui se dégrade. Bon, je sais qu'on va recevoir tantôt France Labelle, là, qui a fait justement un balado sur l'itinérance ici même à Canal M, qui vous a reçu et puis oui. qui voulait savoir, qui vous talonnait un peu pour savoir, bon, vous êtes un peu dans le processus, c'est-à-dire comment concilier finalement tous les intervenants, parce qu'on a une grande expertise ici.
Oui, effectivement. C'est un peu la chance qu'on a là, face à une crise là, comme celle de l'itinérance, c'est de pouvoir compter sur un écosystème d'organismes communautaires qui travaille sur ce dossier depuis des années, puis qui est très bien établi avec des infrastructures. Mais force est de constater là, qu'avec l'enjeu qui a cru de façon exponentielle dans les dernières années, on parle de l'effet de la pandémie, mais également de la hausse des coûts du loyer, l'impact que ça a là, sur des populations qui étaient déjà vulnérables mais stabilisées. Mm-hmm. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est que les groupes communautaires en ont plein les bras.
Tu sais, j'ai cette image-là que quand je travaillais dans le milieu, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, ben là, ça fait déjà 20 ans à peu près, le réseau communautaire était un peu le débordement de tout ce qui était les hôpitaux et les urgences. Ouais. Et là, vraiment, la rue devient le débordement des réseaux communautaires qui peinent
à... C'est une belle image, c'est exactement ça. Ouais. Ouais.
Ouais. Et donc, là, notre objectif à nous, comme pouvoir public, ben, c'est de faire en sorte que la rue ne devienne pas un hôpital et de savoir comment on est capable, avec nos partenaires fédéraux, nos partenaires provinciaux, d'accompagner, de financer adéquatement le réseau pour leur permettre justement d'accueillir une population plus vulnérable, de prévenir en investissant massivement pour construire du logement abordable, du logement social, de nouvelles personnes à tomber dans l'itinérance, de travailler avec le réseau de la santé pour qu'elle puisse accueillir des gens aussi de plus en plus vulnérables afin d'éviter justement que ce soit dévolu au réseau communautaire. Bref, l'itinérance a tellement de facettes, a tellement changé de façon rapide qu'on se doit comme pouvoir public d'être agile puis d'augmenter notre engagement d'un cran à ce stade-ci si on veut pas que la crise s'enracine dans les rues de Montréal.
Non, c'est sûr. Ma collègue, justement, a une question pour vous, Nathalie, qui est ici.
Oui. Monsieur Baudry, en attendant ces fameux logements,
oui.
les campements,
oui.
En fait, les campements, moi, bon, à l'époque, je passais souvent sur Notre-Dame, il y avait beaucoup de campements. Pourquoi on ne peut pas les laisser s'installer dans un parc, dans un lieu où on les rassemble, comme le font certains États aux États-Unis? Pourquoi on ne serait pas capable, nous, de leur permettre ça?
Pour plusieurs raisons.
Ouais.
En fait, c'est une approche et il y a plusieurs types d'approches. Mais la première, c'est qu'on ne veut pas normaliser une situation qu'on juge inacceptable. Dormir dans une tente, ça ne doit pas être périn. Dormir dans un refuge non plus, ça ne doit pas être périn. Il y a des enjeux très réels liés à la sécurité. Quand vous avez vu le grand campement qu'il y avait sur le site Notre-Dame,
oui.
Il y a eu des incendies. Il y a des enjeux aussi dans les campements quand ils s'organisent, avec même des situations où les personnes vivent, soit des situations d'abus, des situations de précarité, il y a tout l'enjeu des surdoses. Est-ce que la construction rapide, par exemple, d'éléments modulaires plus stables, pourrait être quelque chose qui serait une alternative au campement? Absolument. Puis c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Il y a des villes, d'ailleurs, qui ont annoncé qu'elles allaient aller de l'avant avec des premiers projets comme Gatineau,
ouais.
Québec. Montréal, ils travaillent actuellement aussi parce que c'est une réalité.
On parle de mini-maisons aussi, hein? C'est ça dont vous parlez,
En fait, c'est pas tout à fait ça. Des mini-maisons. Il y en a plus dans l'Est canadien, des mini-maisons. Mais bon, le modèle qu'on regarde à Montréal, c'est plus des modulaires qui seraient un petit peu plus comme des roulottes de chantier, mais organisées en petits studios avec des sanitaires. Mais une toile, l'hiver, avec des bonbonnes d'essence, avec tout ce que ça peut causer comme enjeu de sécurité, de cohabitation, c'est pas souhaitable. L'autre enjeu aussi, le domaine public comme les parcs offre une vocation à une population de proximité qui est aussi importante. C'est-à-dire d'avoir des parcs, on l'a vu pendant la pandémie, c'est la résilience aussi de nos familles, de notre quartier, c'est des endroits de rencontre, c'est des lieux de partage. On ne peut pas privatiser ces lieux-là pour y installer des bâtiments. Est-ce qu'on peut utiliser nos terrains qu'on a acquis pour y faire du logement social ou nos anciens bâtiments? Oui, puis on le fait déjà. Gordon, dans Verdun, c'est ça. On y a offert rapidement un refuge. On fait de l'acquisition de bâtiments aussi pour ouvrir des refuges. On parle de Sainte-Bibiane, par exemple, où on va offrir un service de deuxième ligne, un service pour la population là qui n'est pas à haut seuil, mais qui aurait besoin d'être hébergée. Antique, la même chose. Donc, on se doit de multiplier ces installations-là qui sont permanentes et surtout sécuritaires versus de faire en sorte que des tentes poussent un peu partout à Montréal, comme c'est le cas actuellement.
Donc, vous êtes en train de nous dire que, dans le fond, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses aussi qui se font de façon intelligente. Là. C'est parce que c'est facile d'amener des solutions, mais évidemment, il faut réfléchir, faut réunir tout le monde. Là, parce que là, ce que vous me dites, c'est que là, ça touche autant le service des incendies de la Ville de Montréal quelqu'un qui est attaché à l'urbanisme, mais ça touche les gens de la santé. C'est ça la complexité, finalement.
C'est la complexité, puis c'est aussi le nombre de facettes qui est le portrait d'itinérance aujourd'hui. Il n'y a pas un modèle de l'itinérance. Ça peut être une famille qui a été victime d'éviction. Ça peut être une personne âgée qui a une petite retraite, qui est plus capable de subvenir à son loyer. Ça peut être une personne qui a des enjeux de toxicomanie. Ça peut être une personne qui est en processus migratoire et que ça a été plus difficile. Bref, les personnes qu'on voit actuellement dans la rue, là, c'est pas un modèle un archétype. Là. C'est vous, c'est moi, c'est nos voisins. Tout le monde, une partie dans sa vie, a un risque de tomber dans une situation de vulnérabilité. Comment la ville est capable de bien planifier son offre de services avec les gouvernements supérieurs aussi, parce que quand il y a des enjeux de santé publique, quand il y a des enjeux, par exemple, de santé mentale, ils doivent s'engager aussi. Comment on est capable de bien préparer le territoire pour offrir et éviter que les gens tombent dans une spirale de la pauvreté puis de la précarité. Fait que ça passe par le court terme, le développement d'installations d'hébergement d'urgence. Ça parle par l'éducation aussi ou le changement de réglementation pour éviter les évictions. Ce qu'on a vu beaucoup dernièrement, une majorité de personnes qui se trouvent en situation d'itinérance, c'est lié à l'éviction. Ben, on a changé la donne en transformant la réglementation pour éviter de convertir les maisons de chambre en condo ou autre. Donc, c'est toute cette chaîne de services pour fermer la porte d'entrée à l'itinérance, mais aussi ouvrir la porte de sortie pour ceux qui, malheureusement, s'y trouvent aujourd'hui.
Ouais. Vous parliez des maisons de chambre, justement. Ben, il y a eu la disparition des maisons de chambre, comme on les voyait à l'époque. Évidemment, bon, il n'y a rien de parfait. C'était pas nécessairement parfait à l'époque non plus. Mais bon, alors c'est sûr qu'il y a différents modèles. Il faut réunir plein d'intervenants. Le financement, qui fait quoi aussi? Les paliers de gouvernement. C'est sûr qu'il y a des endroits où, finalement, ce sont les municipalités qui doivent prendre ça en charge, alors qu'ici, c'est pas très clair, là. Est-ce que c'est les municipalités, le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Oui,
c'est une responsabilité partagée. Ouais. Mais je ne vous cacherai pas que des fois, les municipalités, on se sent au front un peu avec un pistolet à bouchon, là, parce que l'enjeu est tellement grand, les besoins sont tellement criants qu'on ne peut pas avancer seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience, je pense, de tous les ordres de gouvernement sur le fait que cette crise-là, elle ne va pas s'évaporer d'elle-même. Il faut qu'on y fasse face ensemble. Dernièrement, il y a deux semaines, j'étais avec le ministre Carman et le fédéral, une annonce de plusieurs millions de dollars pour développer justement la première ligne des installations, mais également des installations transitoires pour préparer les gens vers le logement. Parallèlement au développement du logement social, la Ville de Montréal a mis près de 100 millions pour l'acquisition de terrains pour y développer du logement social. Donc, ça va prendre la participation de tout le monde si on veut régler cet enjeu-là. Mais il y a quand même un enlignement qui est en train de se faire. Il faut aller encore plus loin. Je vous dirais que le prochain volet, là, c'est le volet de la santé. Là. Mm-hmm. Comment la santé, l'institution est capable de sortir de ses murs, d'aller dans la rue, d'aller vers les personnes pour offrir les services. Parce que le plus criant, là, c'est pas la majorité. Là. La majorité, on est capable d'aller les capter puis de les installer dans des refuges ou autres. Mais nos cas les plus complexes, les plus hypothéqués, ceux qui créent les enjeux d'insécurité, ceux qui peuvent se mettre aussi en danger à certains moments dans l'espace public, c'est là qu'on doit intervenir là, pour apaiser justement puis travailler à une réelle mixité dans l'espace.
Ouais. Puis il y a toujours il y a des clientèles qui autrement dit sont plus difficiles à caser que d'autres là. C'est sûr que bon une clientèle de gens qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale, ça c'est difficile évidemment de un peu plus de travailler en collégialité avec ces gens-là. C'est à peu
près... Et je reviens à mon propos du début. C'est là que les organismes, à un moment donné, se retrouvent un peu au dépourvu parce que quand ils sont face à une personne qui consomme, qui a un enjeu de santé mentale, s'automédicamente avec la consommation, a trois chiens, a des épisodes de violence, elle aussi crée un microcosme en son sein avec diverses personnes qui ont des enjeux problématiques et ils sont pas capables de pouvoir gérer tout en même temps. En fait, ils seraient capables s'il y avait des moyens médicalisés. On se doit de financer ou de soutenir notre réseau communautaire comme on finance nos hôpitaux. Il offre un service clinique. Et l'enjeu, bien souvent, c'est là que le bas blesse. C'est que pendant des années, ça a été sur le dos de la charité, de la philanthropie ou autre. Puis les budgets d'organismes communautaires ont fondu comme neige au soleil. Je vous donne l'exemple. Quand j'étais directeur d'organisme, 70% de mon budget était du non récurrent, soit des programmes ou surtout des donations privées. Donc, à long terme, si on veut assurer un maintien de l'offre de services, si on croit vraiment à cette offre de services-là qui est complémentaire au réseau de la santé, on doit le financer adéquatement.
Tout à fait. Ben, écoutez, ça a été un plaisir, Robert Baudry. Merci bien. Et parlant d'organisme, justement, on va parler avec France Labelle dans un instant du refuge pour les jeunes. Mais enfin, elle a cette expertise-là au niveau des organismes communautaires, alors qu'ils font face à toutes sortes de problématiques. Merci bien, Robert Baudry, d'être venu nous parler d'itinérance. Très important, sujet très chaud.
Merci.
Merci, au revoir.
On accueille notre dernière invitée pour aujourd'hui et on continue avec l'itinérance. France Labelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, alors France, je vais me permettre de te tutoyer. Enfin, on est des collègues puisque, bon, tu animes un balado ici même à Canal M sur l'itinérance. Alors, évidemment, tu es depuis 30 ans là, une intervenante de premier plan. Enfin, je veux pas te vieillir, mais enfin, ça fait quand même...
On peut en rajouter 38.
Parfait. Alors, une intervenante de premier plan dans le milieu communautaire, là, auprès des personnes en difficulté, des gens sans-abri, enfin. Et puis là, ben, tu dirige aussi en même temps le Refuge pour les jeunes, fondatrice de cet organisme-là qui existe encore là, depuis quand même longtemps.
Ça fait pas
d'hier, oui, c'est ça.
Oui.
Alors, c'est ça. Donc, toi, justement, on a parlé avec Robert Baudry, que tu connais très bien.
Oui.
Vous connaissez tous dans le milieu communautaire, c'est sûr, tous les gens des municipalités et tout qui interviennent dans ces dossiers-là, c'est sûr que vous êtes assis à la même table régulièrement. Mais, enfin, donc, tu connais tous les... on va pas revenir sur le problème de l'itinérance. On en a parlé beaucoup avec Robert tantôt.
Oui, j'ai entendu.
Ce qui est intéressant, il y a peut-être des choses que tu voudrais ajouter, mais parce que dans ton balado, justement, tu le rencontres, justement, tu parles avec lui. Et puis, c'est ça, tu veux dégager des solutions. Parce que oui, on le sait qu'il y a plein de beaux projets. Et puis, bon, est-ce qu'on dirait, France, dans ce cas-là, que petit train va loin, c'est-à-dire qu'on sait que c'est complexe, on sait qu'on va finir par régler bien des choses, mais ça va prendre du temps.
Oui, puis quand Robert dit on ne veut pas normaliser une situation inacceptable, c'est un petit peu ce qu'on a fait au cours des ans. Hein. On a vu venir la crise du logement, on s'en est pas occupé. On a vu nos jeunes sortir des centres jeunesse puis se retrouver à la rue. Donc, bon nombre on connaissent une situation d'itinérance là, à leur sortie. Et ça, on le sait depuis longtemps. On voyait l'augmentation de l'itinérance. On a accepté les évictions. On accepte que les gens n'aient pas un revenu suffisant pour répondre à leurs besoins de base au niveau de l'aide sociale. On accepte que des gens avec un parcours migratoire se retrouvent directement à la rue. Alors, eh bien, si c'est pas des façons de normaliser la pauvreté extrême qui mène à l'itinérance et le manque de logement, je me demande comment on peut appeler ça. Alors, c'est assez fâcheux de constater que l'on est en pleine crise qui est annoncée depuis
longtemps,
bon moment par
absolument.
Les groupes communautaires et les personnes qui vivent directement des situations extrêmes de pauvreté.
Ouais, parce que ça veut dire qu'on ne vous a pas écouté, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous sonnez la sonnette d'alarme, comme on dit.
Absolument, absolument. Mais c'est ça, on était les empêcheurs de tourner en rond. Puis là, le temps, je veux bien le temps, mais quand on va dire à monsieur, madame, un jeune, une jeune fille qui se retrouve à la rue faute de logement, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ah, on va attendre 3-4 ans. Ce matin, là, tu l'évoquais, là, les maisons pour jeunes, regroupement des auberges du cœur, donc sont en débordement. Nous, on est en débordement. Puis Robert le disait bien aussi, là. Hein? Donc c'est bloqué partout. Alors, on n'en a pas de temps.
Non, puis c'est ça. Puis les organismes, les refuges sont eux-mêmes souvent mis à la rue, façon de parler, à cause des loyers trop élevés.
Absolument. Absolument. Donc, on est en crise. Les solutions, on les connaît. On en applique beaucoup. Beaucoup d'organismes communautaires développent du logement social. Presque tout le monde. On va de l'urgence à l'accueil en passant par le logement social, différentes formes. Les choses vont beaucoup plus vite que nous. Hein?
Comme on dit,
plus de gens qui arrivent. Que
les besoins sont tellement grands que ça nous dépasse un petit peu. Ouais. On n'arrive pas à maintenir la cadence.
Non, mais pas de là à dire qu'il n'y a rien à faire.
Non, je comprends.
Il faut accélérer, continuer à faire ce qu'on fait bien, ce qu'on connaît bien. Puis Robert le disait aussi, le financement. Hein?
Ah, ça, c'est le nerf de la guerre. Ça a toujours été.
Ben oui,
ça le sera toujours.
Ben oui, ouais. Ça c'est. Puis il faut que ça soit concret, rapide.
Oui, je comprends.
Puis, la question des campements, je veux bien. Nous aussi, tous les organismes, on ne prône pas les campements comme une solution, mais il n'y a pas de lieu.
C'est ça, il faut quand même l'envisager, ouais. Et puis ça peut être une solution qui est pas permanente, mais quand même qui peut durer un certain temps, forcément, ouais.
Il faut penser alternative temporaire en attendant, hein? Quand il pleut, il pleut.
C'est bon. Bien dit, ouais.
France, tu travailles, toi, auprès de la clientèle des jeunes.
Oui,
comment
des jeunes hommes
ouais,
de 17
c'est ça,
à 26 ans.
Exactement. Oui. Mais c'est quoi le portrait exactement de l'itinérance? Parce que, bon, je suis allée te voir récemment, on a vu un jeune immigrant, écoute, beau, chic, beau vocabulaire, et pas de maladie mentale, pas d'alcoolisme. Le portrait ressemble à quoi? Chez les jeunes
c'est
itinérants.
Sûr qu'au niveau des jeunes avec un parcours migratoire, donc sur 500 jeunes accueillis l'année dernière, 54 % étaient issus d'un parcours migratoire récent, dont des demandeurs d'asile. Puis celui que tu décris, en apparence, donc c'est quelqu'un qui va traverser la rue puis qui sera pas visible. Il y a beaucoup d'itinérance cachée chez les jeunes. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui se retrouvent en refuge faute de logement. Et puis si un jour ils ont accès à 1,5 à 1 500 $, ils vont être 4-5 dans ce fameux 1,5 là. Donc c'est très très précaire. C'est des jeunes aussi qui sont sans revenus à l'arrivée. Donc ça va prendre des mois avant qu'ils reçoivent éventuellement de l'aide sociale. Et ils veulent travailler, mais ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils sont sans papier, donc la situation pour eux, elle est extrêmement difficile.
Parce que
les autres.
Excuse-moi, France, j'ai l'impression que les gens portent un regard sur l'itinérance chez les jeunes en pensant qu'ils ont tous des problèmes de dépendance. C'est vraiment pas ça.
Non, c'est inexact. Quoique le chiffre, nous, on est sur une ligne d'urgence, donc des jeunes très, très mal pris, qui ont différentes difficultés. Alors, il est vrai que les problèmes de dépendance tournent autour de 60 % des jeunes accueillis.
Oh, quand même.
On parlait de santé mentale, bien, il y a beaucoup de détresse associée à une situation précaire qui semble sans issue. Donc, la santé mentale aussi est précaire, fragile. Et santé physique aussi, on en parle très, très peu.
Absolument,
mais,
c'est vrai. Ça fait partie de ça aussi.
Ben
ouais.
Oui,
absolument.
Malnutrition,
c'est très, très, très multiple comme problème.
Absolument,
ouais.
Absolument. Ouais. Mais encore une fois, pas de là à dire qu'on
qu'on peut pas, oui,
bras,
qu'on croise les bras.
Non,
il faut combattre nos préjugés aussi en même temps, comme pour le public en général. Alors, ton balado, on parle de gravité de l'itinérance, on parle de santé mentale, on parle de crise des surdoses, on parle de la crise de l'itinérance chez les femmes, enfin, plein de sujets comme ça.
Oui.
Et même, en fait, un cirque qui change le monde, le cirque hors piste.
Oui,
alors, à découvrir sur ton balado, ici même à Canal M, c'est facile à trouver, là.
On
merci,
parle
France Labelle.
D'initiatives très importantes et d'espoir.
Oui.
Très important.
Merci, France Labelle,
merci,
et bonne
France.
Chance avec le refuge pour les jeunes. Et puis, ben, on écoute ton balado sans faute. Et ben, je tiens à remercier, mais au revoir, France, et je tiens à remercier tout le monde, y compris toi, Nathalie.
Merci.
Et puis, merci à Mathieu. Et puis, on se retrouve demain pour une autre belle émission de M l'été entre midi et 13 h. Au revoir et passez un bel après-midi, tout le monde.